Campagne japonaise, un jour de beau temps où le soleil embrasse de ses reflets la mer dorée. Suzume, sur son vélo, rencontre un bel et ténébreux inconnu qui lui demande de sa voix suave « Hé, mamzelle, t'as pas vu une porte ?» Bizarre, se dit Suzume. Serait-elle face à un témoin de Jéhovah à la recherche d'action, un serrurier en recherche de taf? Peu importe, elle prend le risque et lui indique une porte perdue là-bas au milieu des ruines. Et là, c'est la caca, c'est la cata, c'est la catastrophe. Derrière cette porte isolée des possédés de la pièce qui va avec, se cachait le démon Ganon, qui, dans une fumée inquiétante, s'en échappe une fois cette porte ouverte. Ce démon prend alors la forme toute mignonne d'un petit chat. Mais méfiez-vous des apparences, car ce chat est un chalopard. Il épargne Suzume parce qu'il l'aime bien, mais pour ce qui est du bel, étranger et mystérieux, c'est une autre mixture. Le trouvant en trop, le chat le transforme en chaise. Une petite chaise pour enfant, à qui en plus il manque un pied. Enfin, on croit par son allure que c'est une chaise alors qu'il s'agit en fait d'un Pokémon de 15e génération. Bref, chaise ou Pokémon, c'est la galère, surtout que le chat s'est barré une fois le maléfice jeté. Alors Suzume et la chaise partent à sa recherche. En road trip à travers les portes du Japon pour combler le sort, Suzume ne le sait pas encore, mais elle part à la rencontre de son destin. Tout cela serait bien beau si ce n'était pas simplement un gros trip à la méthamphétamine de notre héroïne qui est en fait une clodo qui a un jour rencontré un dealer, un jour de beau temps, à l'heure où le soleil embrasse la mer. Et oui, Suzume, Raipi, il y a des portes à ne pas franchir.
C'est horrible.
Voilà l'histoire.
Wow.
C'est
terminé mal, hein. Voilà l'histoire que l'on s'était imaginé après cette fée des films avec la BA du dernier Makoto Shinkai dans l'épisode numéro 108. Mais qu'est-ce que ça raconte en vrai? Douille ou pas douille, nos avis et ceux de la presse? C'est parti pour le match retour de Suzume.
DJ, keep that shit.
Ça te fait mal quand on te tire dessus?
Je ressens les blessures. La douleur est une simple information.
Votre discours était très éclairant.
Très éclairant? C'est du blabla, oui.
T'intéresses à qui? T'intéresses à quoi, toi? Est-ce que t'en as de la considération?
Tu déconnes, non? T'as aucune notion, t'as fait 40 films, t'as même pas assimilé un minimum de techniques. T'es nul!
Bonjour et bienvenue dans le match retour de Suzume, le dernier film de Makoto Shinkai. Après vous avoir exposé nos attentes autour de ça, Béa sont avec moi autour de la table pour revenir en avis sur ce film à team de jeunes weebos. Ohio, Clémence Chan.
Ohio, Romain Kuhn.
Ohio, William Kuhn.
Ah, fuck you, Romain Kuhn.
Ohio, Kevin Kuhn.
Yo.
Yo. On vous prévient tout de suite, hein, d'ores et déjà, que ça va être du spoil 100%. À 100%, donc fuyez si vous n'avez pas encore vu Suzume. Hein. Déjà, on peut vous dire qu'on vous spoil notre recommandation pour aller voir ce film. Bon, on va se lancer dans nos avis autour du dernier Makoto Shinkai, Suzume. Mais vous le savez, l'histoire qu'on s'était imaginée, ben, c'est pas la vraie histoire du vrai film, de la vraie réalité.
On n'était pas loin.
C'est un dommage.
Il y avait quand même une histoire de porte.
Putain, témoin de Jéhovah, rien du tout.
Même pas un petit témoin de Jéhovah.
Même pas un petit spliff qui tourne.
Il y a un film très propre, hein, sans bavure. Mais on va résumer, du coup, le vrai film, qu'est-ce que ça raconte en vrai? Vous le savez, chaque semaine, on tourne la roue, c'est le hasard.
Et c'est souvent Romain qui raconte.
Une roue sur laquelle il n'y a marqué que Romain.
Ouais, en fait, c'est ça, on tourne la roue, c'est moi.
C'est plus la roue de la chance. Désignera-t-elle Romain une semaine de plus?
Vous le saurez tout de suite, car on lance la roue de la chance. Clémence Chan.
Ça alors?
Allez.
Enfin, oh, je suis surprise.
Allez, bouya.
Je ressens une forme de surprise.
Oui. Alors, Clémence.
Oui.
Suzume.
Eh bien, c'est l'histoire de Suzume, notre héroïne, qui est une jeune fille orpheline qui habite chez sa tante, qui, par une journée normale, se rend au collège. Et sur la route, elle croise donc un beau gosse à la recherche d'une porte. Et c'est là que son aventure commence, parce qu'en fait, elle a un gros crush sur lui. Donc, au départ, elle continue sa route, et puis d'un seul coup, elle se dit, en fait, non, je vais faire demi-tour, je vais aller le retrouver là où je l'ai envoyé, là, dans les ruines en haut de la ville. Et du coup, quand elle arrive dans les ruines, elle voit qu'il y a une porte qui est ouverte et qui est...
Fermée.
Ah oui, non, en fait, c'est qu'il y a une catastrophe qui est en train de sortir de la porte. Enfin, il y a une espèce de, d'immense tub rose qui est en train de sortir de la porte.
En fait, elle va à l'école et elle voit, oui, au loin.
Ouais, il y a une alerte sismique qui se déclenche et en fait, elle voit d'un seul coup qu'il y a une espèce de truc dans le ciel qui se répand
ça
comme une force surnaturelle.
Oh là là, Clémence, mais tu as déjà oublié le film.
Mais si, c'est ça. Non, en fait, et elle y retourne en urgence
une,
et
trouve,
tout.
Elle trouve la porte une première fois. Elle déplace une statue.
Mais on s'en fout. En fait, on s'en fout de ce qui se passe entre temps. Ah oui,
ah bah non,
oui,
non. Ça,
il a raison.
On s'en fout pas, c'est le méchant
parce,
du film.
C'est parce qu'elle ouvre la porte.
Oui,
que...
elle se rend en fait aux ruines avant le bel homme. Voilà. Ensuite, elle dit bon, en fait, il n'y avait qu'une porte.
Il y avait qu'une porte qu'elle ouvre. Qu'elle essaye de traverser puisqu'elle voit un champ. Derrière, il y a une statue qui bouge, qui se transforme en chat. Et après, elle va au lycée. Et là, ça commence.
Et c'est la fin.
Et là, il y a une bitch.
Et là, elle a passé son BTS, son BTS MUC.
Diplômée.
Elle s'en est très bien sortie.
Non, et puis, du coup, après, elle voit qu'effectivement, il y a quelque chose qui se produit, un phénomène un peu dangereux. Et c'est un peu comme dans Avalanche Shark, en fait. C'est-à-dire qu'elle a enlevé un totem, elle a déplanté le totem.
Skokom.
Et du coup, ça provoque une avalanche.
Skokom, le requin de l'espace.
Oui. Auront, les gens qui auront la ref comprendront.
Le ver qu'ils appellent ça. Mais qu'est-ce enfin,
non, mais en gros, après, bah, du coup, ce qui se passe, c'est qu'elle vient pour fermer cette porte en catastrophe. Et le gars est là aussi pour faire ça. Il lui explique qu'en fait, lui, c'est son rôle de fermer les portes pour éviter qu'il y ait des catastrophes de type séisme qui se produisent et qui détruisent tout sur leur passage, enfin, à cet endroit-là. Et du coup, c'est dur à résumer en vrai parce qu'en fait, il se passe déjà plein de choses dès le début. Mais en gros, elle le ramène chez lui, chez elle pour le soigner. Et puis là, il y a le chat qui débarque et qui le change lui en chaise et qui se barre. Et lui en mode chaise essaye de poursuivre le chat et
l'aventure commence.
En gros,
on
comprend que le chat va foutre la merde et ça devient un road trip à travers le Japon où ils poursuivent le chat qui à chaque fois on a l'impression qu'il ouvre des portes et qu'à chaque fois c'est le bordel et eux ils referment les portes mais en fait c'est un peu autre chose.
Un chat influenceur.
Encore un chat à qui on doit ouvrir la porte, fermer la porte.
Exactement, c'est
la porte.
Le fléau de notre siècle,
n'est-ce pas?
L'animal noble et magnifique.
Bon, bah voilà, c'était l'histoire résumée. C'est vrai que ben c'est un peu compliqué à enfin résumer comme ça parce que ben ça part un peu dans tous les sens. Mais en fait, ça se tient le film. Attention, hein. C'est quand même une histoire de porte. Mais il y a toute une mythologie. Non, mais en même temps, c'est bien
quand
aussi.
Même une histoire de porte.
Non, mais je voyais.
La porte est avérée.
Soyez rassurés, au fond, c'est une histoire de porte.
Une histoire de porte. Pour tous les portophiles, il y a des portes, beaucoup, de tout type d'ailleurs. Des portes de fêtes foraines, des portes
porte
de
glissière.
Lycée, à glissière, à poignée robuste, tous les gonds, les charnières. Vraiment, vous y trouverez votre plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on a pensé du film? On va comparer la BA qu'on s'était faite dans l'épisode précédent et le film, c'est le douille ou pas douille.
C'était une douille.
C'était pas une douille.
On va la faire courte. Quand on avait vu la BA de Makoto Shinkai Suzume, on avait tous très 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 hâte de voir le film car on adore les films du bonhomme. Mais moi je veux savoir, douille ou pas douille, Kevin Kuhn.
Eh bien, moi j'ai envie de dire pas douille. J'ai beaucoup aimé le film. Je suis très content de l'avoir vu. Je pense que c'est pas mon préféré. Je pense qu'il y a des petits éléments structurels que je développerai plus tard, que je pense auraient pu être un peu mieux ficelés, mais dans les grandes lignes, j'ai beaucoup apprécié le film. Et puis donc pas douille, voilà.
Pas douille, Clémence Chan.
Oui.
Qu'as-tu pensé, douille ou pas douille?
Eh bien pas douille. Et je pense que c'est même déjà dans mon top film de l'année. Je l'ai noté dans le carnet. Donc
putain,
c'est écrit.
Juste derrière
à
Avalanche Shark, quoi. Avalanche Shark Suzume. Similitude. Ok, William. Cool.
C'était le film que j'attendais le plus cette année et patouille. J'ai
patouille.
Adoré.
Ouh
voilà, je reviendrai plus en avis un peu plus tard. J'en dirai pas plus pour le moment.
Bon, bah, le quatrième va vous surprendre.
Romain Kuhn.
Bah non, pas douille.
Oh,
jamais...
Sugoi, yatta.
Yatta.
Itadakimasu. Tu sais, là, il y a des bols et tout, du riz à bouffer.
Shinkai-sama.
Sake.
Non, bien sûr, pas douille. J'avais adoré la BA parce qu'elle nous vendait un beau voyage à travers tous les décors, autant ruraux que urbains, du Japon. Quelque chose de dépaysant, de rafraîchissant. Et j'ai eu toute cette dose-là, voire même plus. Avec Suzume. Ouh. Encore une belle prouesse de Makoto Shinkai qui décidément aime beaucoup. On verra que il aime beaucoup ces thématiques et il fait bien parce qu'elles sont très belles Et en tout cas, dans la salle, ça applaudit. Voilà.
Il aime beaucoup le McDonald's aussi.
Ah oui, il aime beaucoup les burgers.
Ça fait deux films d'affilée qu'on fait de la pub de McDo.
Et ben ça, je sais pas quoi dire. Oui, alors, qu'est-ce qu'on a pensé du film? Suzume, j'ai envie de te lancer. Kevin William.
Je sais pas comment tu veux, décide-toi.
Bon, non, comme ça, on va alterner. Alors, Kevin, pourquoi c'est pas ton préféré? C'est quoi ton préféré déjà pour commencer?
Bah, c'est pas mon préféré. Après, c'est hyper subjectif, mais après tout, nous sommes-nous pas, n'est-ce pas, dans
les êtres subjectifs.
Des œuvres subjectives dans un podcast sans objectivité, bien sûr. Non, je dirais que c'est pas mon préféré parce que moi je garde toujours Your Name en préféré dans le sens où, et à ça c'est subjectif, c'est parce qu'il m'avait marqué par le retournement. Ce qui n'y a pas dans, dans les deux films suivants, mais c'est pas un défaut en soi, c'est juste que moi il m'est plus resté en mémoire à cause de ça. Donc c'est pour ça que c'est pas mon préféré. Après, bah, c'est un excellent film, il est juste visuellement magnifique, est extrêmement bien raconté, personnage hyper attachant, une personnalisation des objets inanimés normalement, donc la chaise, pour citer Sota, la chaise, ou Sofa bien sûr, qui est juste, je trouve, fabuleuse. Moi j'ai juste, je sais même pas trop quoi dire en fait, parce que j'ai vraiment adoré le film. Moi il y a juste un petit défaut, mais je vais pinailler. Je trouve que dans la première partie du film, il y a un peu trop un schéma de répétition de le chat est ici, la porte s'ouvre, il faut la fermer, je revis mes souvenirs, papap, voyage, je retourne, je refais la porte, je refais le souvenir, je refais tout ça. Qui est le seul petit défaut, parce que je trouve que juste en termes d'expérience spectateur, je me suis dit peut-être que là il aurait peut-être gagné à rythmer un peu plus le truc, à ellipser ceci, à faire ça. Mais après c'est vraiment du pinaillage pour pinailler, parce que c'est un film qui suit très bien, qui coule très bien, qui en plus je trouve a cette poésie qu'on retrouve d'habitude dans son cinéma. Et moi j'aime beaucoup les histoires de folklore et j'aime beaucoup tout ce qui va être un peu du réalisme magique, quoi, donc l'intégration des folklores dans la réalité. Et là on est vraiment là-dedans, entre la crise, mais en tout cas la situation du Japon, qui malheureusement est quand même un territoire qui est sujet aux catastrophes naturelles et aux séismes en particulier de manière récurrente, et tout l'aspect mythologique qu'on a avec donc les deux chats piliers, Daijin et Sadaijin, n'est-ce pas, que je trouve vraiment rafraîchissant, d'autant plus quand on a un antagoniste qui n'en est pas vraiment un, les liaisons dangereuses, mais on pense que c'en est un pendant, on va dire, les deux, la moitié du film,
les trois quarts du film,
jusqu'à ce qu'on se rende compte que c'est juste un chat.
C'est l'école Miyazaki, ça. C'est dans Chihiro, bah, il y a des antagonistes jusqu'à qu'ils deviennent copains, enfin il y a plein de trucs.
Non, mais même
comme
là,
ça,
en fait, dès le début, c'est pas un antagoniste, c'est juste qu'il a un comportement capricieux à la fois de divinité et de chat, finalement, quoi. Je trouve que c'est assez cohérent que ça soit un chat.
Un simple guide.
Voilà. Et d'ailleurs, en parlant de Miyazaki, je trouve que c'est peut-être un des films de Shinkai qui ressemble le plus à du Miyazaki. Même esthétiquement, dans le chara-design notamment, je trouve que Sota il fait très Miyazaki,
bah,
dans
il
son
rappelle
design. Le prince du château ambulant notamment. Je trouve très Miyazakien, si je puis me permettre, bien sûr.
On aurait dit beaucoup aussi le personnage masculin au début de Ameyuki, les enfants loups. Le père,
oui,
carrément.
Le père. Bah, lui aussi. Ouais. Lui aussi très, très Miyazakien, tu vois, au fond. De toute façon, il y a une interview récente de Makoto Shinkai qui est sur Combini ou je sais pas où, si vous voulez regarder, où il parle un peu de ses influences et notamment de Miyazaki, parce que bon, c'est dur de pas l'avoir en influence quand tu fais de l'animation au Japon. Donc non, bah écoutez, super film, pas déçu, très très beau. Je trouve que l'intégration en plus de la 3D pour donner le dynamisme est plutôt bien faite, à part peut-être certaines scènes de verre où bon, l'incrustation elle est pas dingue, mais ça on sait que les studios japonais c'est pas forcément leur fort de faire ça, donc bon, petit défaut, mais bon, qui pas grand chose face à la qualité du film, je trouve, donc voilà quoi.
Bien kiffé quoi. Clémence, j'ai envie de te relancer sur les
avis
de ton coloc.
Non, vraiment, j'ai adoré. En fait, c'est ce genre de film que j'ai déjà envie de revoir. Vraiment, là, ça me démange. J'ai envie de retourner au ciné pour le revoir au ciné parce que c'est trop un beau moment. J'ai vibré.
Ça va partir en steelbook, ça. Je vois déjà le steelbook dans ta...
Carrément. Je te dis, je l'ai noté dans la liste de mes films préférés de l'année, déjà. C'est écrit, donc il y restera. Et je pense que c'est mon préféré de Makoto Shinkai. Je crois que je le préfère à Your Name.
Elle l'a dit.
Breaking news.
C'est vrai, parce que en fait, j'ai adoré qu'ils reviennent sur une structure un peu plus linéaire, un peu plus classique quelque part. tout en gardant évidemment toutes les qualités qui font son cinéma dont on avait parlé, avec des personnages secondaires hyper forts, avec une peinture sociale qui est toujours en arrière-plan, même par des petites scènes et tout, un ultra-réalisme et tout. Mais en même temps, j'ai adoré que l'histoire soit, comme disait Kevin, inscrite dans une espèce de folklore, une espèce de contexte de trauma du pays vis-à-vis des catastrophes, et en même temps de croyances par rapport aux divinités, au fait que c'est tout ça, et aussi le destin, les caprices du destin, etc. Et j'ai été énormément touchée par ce qui, à mon avis, le propos central du film, c'est surtout une histoire de deuil, en fait, d'apprendre à tourner la page, à fermer la porte après un trauma.
Littéralement, c'est ça. Hein.
C'est ça, parce qu'en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que l'héroïne Suzume, on en sait très peu sur elle au début du film, et à mon avis, c'est tout l'intérêt du côté un peu répétitif du début avec les différentes portes à fermer, c'est qu'effectivement, à chaque fois, on en apprend un peu plus par petites touches, à chaque fois qu'elle retourne un peu dans ses rêves ou ses souvenirs.
Elle redécouvre en fait son histoire.
Elle se redécouvre. Et c'est presque comme, moi en y repensant après, je me dis, c'est presque comme une victime d'un traumatisme, d'un choc qui a fait une dissociation de qui elle est et qui finalement réapprend à se retrouver et à retrouver ses souvenirs et à revenir sur le lieu. Et on comprend qu'au bout du chemin qu'elle va faire avec Sota et en suivant Daijin le chat, il passe par des villes, différentes villes du Japon où il risque d'y avoir des catastrophes naturelles à chaque fois, où il y en a même des fois déjà eu. Et ils arrivent, il me semble, vers Fukushima en fait. Enfin, je n'ai pas vérifié, mais c'est quand même une histoire de tsunami et je me demande s'il n'y a pas un lien quand même avec Fukushima. T'as vérifié ?
Non, c'est que je sais où se trouve Fukushima et ce n'est pas du tout où ils sont à la fin du film. Donc...
C'est vrai, t'as vérifié s'il n'y avait pas un lien
Bah en tout cas, là où ils sont, ça n'a rien à voir avec Fukushima.
Okay, bon, en tout cas, ça évoque très fortement ça. Et en fait, ce qui est hyper bien fait, c'est que l'ouverture du film est dans un souvenir de la petite Suzume enfant, au moment où elle vient de perdre sa mère et qu'une catastrophe a eu lieu, et on ne comprend rien. Et pourtant, on voit un bateau sur le toit d'une maison et tout, mais on ne comprend rien malgré tout parce qu'on est complètement en attente de ce qui va se passer. Et à la fin, on comprend totalement. On se dit, mais en fait, elle a perdu sa mère dans cette catastrophe. Et c'est... hyper violent en fait. J'ai trouvé que ce film, contrairement à Your Name, avait à la fois un côté très folklorique, très classique et en même temps très grave en fait, que j'avais pas senti dans Your Name. Il y a toute une partie du film où en fait on sent vraiment la gravité, le moment où Sota en fait, enfin je spoil, hein. Sota qui était en chaise meurt entre guillemets, enfin
devient gardien,
devient un pilier et n'est plus vivant. Et ben en fait, l'héroïne, elle déambule dans les rues, elle est en chaussettes, les pieds en sang et tout. Il y a des images où elle prend une douche et le sang coule, le truc un peu classique qu'on voit dans les films avec le sang qui coule par la canalisation et
des
tout.
Des images très dures.
Voilà. Non mais rigole pas. En
mais
vrai,
je
moi
pas, je
tu dis ça de façon sarcastique. Non mais je trouve que c'est une espèce d'hyper réalisme dramatique que j'avais pas vu dans Your Name. Même d'ailleurs le moment à Tokyo où il va y avoir peut-être le pire séisme possible. Bah en fait, on voit plein de gens dans les bureaux, dans la rue et tout. On sent vraiment le côté catastrophe qui va arriver, qui est hyper lourd, et ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc je trouve que toute la fin du film où elle arrive à l'endroit où sa mère est morte et où son trauma a eu lieu, c'est ultra cathartique et dur à la fois, et en même temps bah, les émotions elles sont tellement fortes parce que ça parle de deuil, ça parle de il y a une petite astuce de boucle temporelle qui est hyper bien foutue.
Ça
mais
un peu vénère, c'est, je me dis tiens, il fait une Interstellar là, ça t'est déjà vu et revu.
Ouais, mais en même temps bon, c'est ce qui donne tout le sens au fait qu'au départ elle reconnaît Sota quelque part et il l'interpelle, c'est parce qu'elle l'a déjà vu de loin en fait. Voilà, tu vois, il y a un truc un peu d'inconscient et de destinée qui est, elle était vouée de toute façon à le retrouver.
Oui, puis
et
elle
à le
réussit
suivre.
À calmer enfin dire son elle de quand elle était petite quoi.
Ouais, c'est ça.
C'est typiquement une Harry Potter. Hein.
Mais c'est tout le symbolisme de toute façon littéral de se retrouver soi-même, tu vois. Enfin voilà.
Oui, en fait, c'est pas mal. Autant
et tout en faisant le deuil de sa mère parce qu'elle était persuadée que dans ses souvenirs elle voyait sa mère et en fait c'était elle-même qu'elle voyait. Donc voilà, c'est en fait vraiment cette symbolique de se reconstruire et apprendre à vivre pour soi-même, même après une catastrophe, même après la perte d'être cher, et toute cette symbolique des portes qui s'ouvrent dans des lieux abandonnés, là où ont eu lieu des effondrements de terrain, enfin des affaissements de terrain et des voilà, un peu ça a été complètement abandonné alors que des gens vivaient là avant. Voilà, c'est tout ce truc du souvenir et de la vie qu'il y a eu avant. Donc vraiment je l'ai trouvé magnifique, et puis en plus de ça, il y a quand même des parties hyper drôles. J'ai juste adoré le côté en voiture avec le deuxième beau gosse du film. Parce oui. qu'il y a
c'est
des beaux gosses
beaux
dans ce
gosses,
film.
En fait, hein, dis-le. Hein. Même le grand-père mais... sur son lit d'hôpital, aïe, je le croque. Hein.
Croque pas trop fort parce qu'il va pas tenir.
Ah non, mais moi, je me suis retrouvée dans une âme de quand j'étais encore lycéenne et que j'étais à fond dans Fruits Basket et que je savais pas lequel gars choisir parmi mes préférés. voilà, Sota, Sota est juste parfait, il est trop beau, il fait penser au mec des enfants loups, il fait penser au mec du château ambulant, et puis cet autre, je sais plus comment il s'appelle l'autre, son pote.
Serizawa.
Serizawa. En tout cas, c'est un peu le bad boy qui fume des clopes avec ses petites lunettes et sa décapotable.
Très vite fait quand même.
Oui, mais c'est trop bien, tu vois, il a l'air un peu d'un type un peu chelou et tout, et en fait, il est super le cœur sur la main, et il met des chansons de pop romantiques dans sa voiture.
Il écoute sa pop romantique japonaise.
C'est trop bien. Et enfin bref, il y a beaucoup de scènes drôles. Voilà, j'arriverai pas à dire tout ce qui est bien dans ce film parce que pour moi, tout est assez parfait et la BO est incroyable. Et je la réécoute depuis
musique de fou,
en boucle.
BO qui fonctionne bien sur YouTube, là, j'ai vu, en cherchant un peu des musiques autour du film. BO, pas mal déjà partagé par tous les weebs du monde. Donc, ouais.
Romain aime beaucoup le nombre de vues sur les vidéos YouTube.
Il y a même des théories là-dessus.
Ça fonctionne bien, hein, attention, la soundtrack de Suzume, là, ça fonce. Ouais, non, c'est cool, c'est un bon film. On n'avait pas vu ça dans la BA, on n'avait pas, vite fait, mais de loin, mais on n'avait pas relié l'élément fantastique de cette espèce de fumée Ganon, là. En fait, qui est là, toute la symbolique qui représente en fait les séismes qui frappent souvent le Japon, hein, qui est malheureusement au cœur des drames là-bas, hein, plus que ailleurs. En fait,
bah, ils sont sur une faille sismique. Hein, donc...
Il a mal situé le Japon entre tsunami et comme séisme, et donc du coup aussi catastrophe nucléaire à cause de ça. Ils sont mal lotis, les pauvres. Donc ouais, le film repose tout le long sur ça. En plus du parcours personnel de Suzume.
Ah, et ce qui est très fort, justement, c'est de se dire que, vu que c'est ça le contexte, en fait, la thématique du deuil a encore plus de sens parce que ce qu'elle se dit, elle, c'est qu'elle a même pas peur de mourir parce qu'elle est déjà consciente, comme elle a perdu sa mère dans ces circonstances, qu'en fait, on peut mourir à tout moment et que c'est juste le jeu du hasard. Et je trouve que ça donne un côté encore plus dramatique par rapport à ce truc de se reconstruire. C'est qu'en fait, c'est l'envie de vivre tout en sachant que tu peux mourir
à tout
moment.
Surtout qu'elle a le contrôle, en fait, quand elle découvre ce monde des verrouilleurs, des portes et tout. Ouais. C'est qu'elle a le contrôle, en fait, sur les séismes. Malheureusement, elle en a été victime, quoi. Par contre, moi, j'ai bien aimé la partie. Tu dis, Kevin, que tu n'avais pas trop aimé la première partie où porte. Moi, j'ai bien aimé, ça m'a fait penser à du jeu vidéo.
C'est pas que j'ai pas aimé, c'est que je me suis dit, ah, c'est un schéma qui se répète quand même trois fois. Je me suis dit, oh, tu vois, peut-être que j'aurais préféré que
moi,
de temps en temps.
Tu déclines ça en série, hein, j'y vais. Hein. C'est vraiment...
Ouais, non, ça.
Ouais, après, un jeu vidéo là-dessus, faut fermer des portes et tout, et au milieu de tous ces paysages trop cool abandonnés là. Parce que t'es en plus là, attends. Revenir encore sur les décors de Makoto Shinkai parce que je fais chier, mais bon.
Non, c'est très beau.
Non,
là,
c'est
décors de Makoto Shinkai plus les ruines à la Miyazaki plus de l'urbex de Instagram. Putain, j'avais envie de me toucher. Hein.
Il le fit.
J'avais envie de double-cliquer sur l'écran et de balancer mon like.
Il le fit.
Et c'est pour ça qu'il a pas vu la deuxième partie du film. C'était expulsé.
C'est pour ça qu'il commande que la première.
Non, mais c'est kiffant. Voilà, en fait, vous avez dit ce que je voulais dire, Kevin et Clémence. Donc voilà, juste un film qu'on recommande à tous. Mais toi, William, on veut savoir, parce que c'était quand même le film que t'attendais le plus de l'année. Est-ce que, du coup, ça t'a satisfait? Est-ce que c'est le méga douille ou méga padouille là?
Non, là, pour moi, c'est le méga padouille. Vous avez déjà dit beaucoup de choses, je vais essayer de synthétiser un peu ma pensée, mais c'est dur parce que, comme l'a dit Clémence, il y a tellement de choses à souligner et qui m'ont plu que ça va être un petit peu dur. Mais déjà, j'ai aimé les personnages, je les trouve attachants, tous, même le chat. Qui pendant très longtemps on a envie de le détester, le retournement de fin de film qui t'explique qu'en fait c'est qu'un guide, ça me plaît l'idée qu'il ait comme ça réussi à marier plusieurs registres de personnages dans un même film. J'ai aimé le côté road trip du film parce qu'on l'a dit très rapidement, mais elle se déplace pas n'importe comment, elle se déplace vraiment de l'extrême sud du Japon jusqu'à l'extrême nord. Il n'y a que Hokkaido, l'île la plus au nord qu'on ne voit pas. On traverse des paysages incroyables. Et j'ai aimé aussi toute la thématique autour, en effet, de la catastrophe naturelle, mais de ce que ça implique. Et aussi du folklore autour de l'apaisement de l'âme des morts. Parce qu'en fait, c'est ça dont parle le film. C'est le traumatisme des gens. On parlait de la perte d'émotion qui vous les porte. C'est ce que dit Clément, c'est la sidération. Quand t'arrive quelque chose comme ça, pendant un moment, t'es obligé de mettre tes émotions de côté parce que sinon, tu te laisses déborder. Et c'est à ce moment-là que tu ne peux pas guérir parce que le deuil, c'est l'acceptation de ses émotions. C'est ce qui se passe, c'est ce qui arrive à Suzume. Et c'est pour ça que au début du film, tu te rends compte qu'elle a des amis, mais il n'y a pas de vraie amitié forte entre eux. Et puis, même avec sa tante, elle l'aime, mais il y a une certaine distance. Elle a l'impression d'être là en trop. Et à ce moment-là du film, elle ne sait pas qui elle est. Elle ne sait pas quel est son rôle. Elle se trouve, je crois, illégitime à avoir une place dans ce monde, notamment parce qu'elle est traumatisée de la mort de sa mère. Et Kevin disait qu'il n'avait pas aimé le côté répétitif des portes. Moi, j'ai adoré parce que à chaque fois qu'elle ferme une nouvelle porte, elle ouvre un peu plus la porte de ses émotions et de son histoire à elle. Et sans ce passage-là dans le film, tout le propos qui est derrière, qui est l'acceptation du deuil, ne peut pas exister. Et pareil pour le chat. En fait, le chat, l'astuce, c'est que on a l'impression que c'est lui qui ouvre les portes. Il ouvre pas les portes. En fait, il est guide à chaque porte pour qu'il vienne les fermer. Et ce qu'on apprend, c'est que Suzume, en fait, a eu le malheur petit de traverser l'une de ses portes et qu'à cause de ça, elle n'a jamais pu fermer la porte de son traumatisme. Et littéralement, c'est ça. Hein, c'est le chat, la guide, tel un...
Ouais, puis ce qui est cool, c'est que tu t'es satisfait des deux côtés, quoi. Si t'embrasses totalement le côté fantastique, bam, t'es à fond là-dedans, le film, il tient son sens jusqu'au bout. Et si tu dis, bon, le fantastique sert le second propos du film, la double lecture du deuil et tout, etc., ça marche totalement aussi, quoi. Et donc, vraiment, t'es des deux côtés, tu trouves l'équilibre, c'est trop
stylé.
Et
je trouve que le film est malin parce qu'en fait, il n'est jamais binaire. Le chat, il n'est pas vraiment méchant, mais il n'est pas vraiment gentil non plus. Parce que pour qu'il soit un guide... Dans la vraie vie, il est obligé de donner son rôle de gardien à quelqu'un d'autre, qu'il sacrifie littéralement. Et Sota, c'est pas qu'il accepte le choix, c'est qu'il n'a pas la possibilité de l'éviter. Et là où le film est marrant, c'est que comme dit Clémence, à partir du moment où Suzume décide d'agir, c'est-à-dire de pas laisser ses émotions de côté, ce qu'elle a fait la première fois avec la mort de sa mère.
Oui, mais ce qu'il faut dire, c'est quand même, en termes d'émotions, elle tombe amoureuse. Donc il y a aussi un aspect romance
voilà,
qui est hyper présent.
J'allais y venir. Quand Sota disparaît, elle décide de pas tomber dans une sidération quelconque. Au départ, elle le fait un petit peu, jusqu'à qu'elle aille voir le grand-père qui lui dit justement d'ailleurs l'inverse de ce qu'elle va faire, c'est-à-dire lui dit « Laisse tomber, rentre chez toi et oublie. » Ce qui est justement ce qu'elle avait fait la première fois lors de son premier traumatisme. Là, elle décide de faire l'inverse. Et à partir du moment où elle agit, elle peut guérir. Et ce que je trouve beau, c'est que finalement, c'est une boucle. Elle part de son futur, c'est-à-dire du sud. Elle va jusqu'à son passé dans le nord, où il y a sa ville d'origine, dans laquelle il y a eu ce tsunami qui a tué sa mère. Elle repasse la porte qu'elle a passée gamine pour se retrouver et finalement donner la première pierre de la guérison à son elle du passé, c'est-à-dire cette chaise qui va l'accompagner dans son récit initiatique qui lui permet de guérir quand elle est plus âgée. Je trouve que le film a une poésie incroyable. On avait parlé de ce mélange entre modernité et tradition. On est totalement là-dedans. On découvre qu'il y a une espèce de confrérie qui sont les gardiens du repos de l'âme des morts des cataclysmes. Et je trouve ça beau de me dire qu'il y a peut-être des gens dont c'est peut-être juste la seule profession, c'est de se dire bah
ça ferait un bête de manga en tout cas.
Ouais, bah c'est plus ou moins. Hein,
non mais là
King,
en mode porte et tout, urbex ouais. Et compagnie là.
Ensuite,
ah ouais, j'achète hein.
Ensuite on a
avec une préface de Felduc.
Ensuite on a parlé de, enfin j'ai parlé de road trip et d'étapes. Ce qui est bien, c'est que Suzume aussi, elle peut guérir parce qu'elle rencontre des gens avec lesquels elle va se lier. La première, c'est d'abord une première vraie amie qui va pas la juger, qui va accepter de l'aider, peu importe, sans savoir ce qui lui arrive. Puis elle rencontre une mère de substitution qui va s'occuper d'elle, qui va aussi la diriger, mais aussi lui montrer une autorité en lui disant bah tu laves ça, tu fais ça. Enfin, et progressivement comme ça, elle rencontre des gens qui vont. Elle rencontre aussi une sorte de grand frère
à qui elle apporte, de qui elle prend aussi beaucoup.
Exactement. Et enfin, je sais pas.
Voyage initiatique quoi.
Ouais, j'ai trouvé le film particulièrement beau, touchant. Je m'attendais à pleurer, j'ai pas pleuré, mais une ou deux fois, j'ai eu un peu la gorge. Qui s'est serré, j'ai trouvé la BO magnifique, le thème principal est incroyable. Je sais pas, j'ai tout aimé, on a parlé des décors et juste d'un point de vue technique, je trouve que la réa est formidable, les plans fixes, moi c'est vraiment un truc que j'adore. Mais pas la Emmanuel Mouret où ça raconte rien.
Les plans fixes droits quoi.
Je pensais pas qu'on allait évoquer ce nom dans ce
film. Non, mais c'est
un point. Là c'est important parce que.
Point Mouret, hein, ça y est, franchement.
C'est important parce que très souvent je disais qu'avec Mouret, ces plans fixes, je les trouvais ennuyeux. Là je trouve qu'il n'y a aucun plan qui est ennuyeux. Même quand ils sont. Fixe, il trouve toujours le moyen de bien cadrer, de mettre ses personnages au bon endroit, de nous donner toutes les informations dans un cadre qui est limité.
Puis la lumière est hyper signifiante.
La lumière.
Ah, oh, trop bien, c'est trop beau.
Je sais pas.
Ce bleu là qui appartient qu'à lui là.
Et aussi dans les décors, je trouve que c'est ultra incarné. Ce que je disais à Kevin quand on était sorti du film, c'est que par exemple, l'appartement de Sota, en fait, c'est totalement lui. Enfin, je trouve qu'il y a un souci du détail en fait en termes d'ambiance. De décoration dans le dessin, quoi. C'est
appartement BG, quoi. Hein.
Exactement. On a envie d'y être, de se poser sur le lit et d'attendre qu'il rentre
non,
des cours.
On va te laisser toute seule.
Les persos, ils se transpirent, enfin, ils se projettent trop sur tout ce qui les entoure. Ça, c'est génial. Moi, j'adore le fait que la décapotable de Serizawa, elle se ferme pas. Je trouve ça trop bien. Parce que le mec, il arrive, ouais, je suis trop cool et tout. Mais en fait, le gars, il est pas accompli. Le fait que sa décapotable se recapote pas, je trouve que ça dit.
Ouais, mais par contre,
ça dit vraiment ça du perso.
Pour revenir sur les chambres, là, il y a un move que Sota, il fait. Là. Moi, c'est désolé, hein, c'est deal breaker direct. Hein. Quand il rentre dans la chambre de Suzume au début, qu'il commence à ranger, Moi, ouais, tu fais ça, tu fais ça chez moi, je fais qu'est-ce qui t'as pété un boulon toi, t'es qui toi?
Ouais, mais lui il aime bien ranger et tout.
Ouais, mais d'où
mais
tu
c'est vrai
que
attends,
chez moi,
ça me fait penser à un truc, c'est qu'effectivement bah la chambre complètement en désordre de Suzume, enfin c'est complètement symbolique, enfin tu vois, c'est j'y avais pas pensé moi en voyant le film, mais pourquoi c'est l'énorme bordel en fait sa chambre, c'est parce que juste elle est pas du tout non mais elle est complètement
c'est...
en désordre,
et
tu vois,
c'est Sota qui va revenir mettre de l'ordre dans tout ça
dans sa vie.
Mais il le dit, Daijin le petit chat, il dit je suis là pour mettre de l'ordre, enfin on est là pour mettre un peu d'ordre.
Et enfin, je trouve que le fait d'avoir fait se balader les personnages dans des lieux désincarnés à cause du cataclysme, c'est quelque chose d'intelligent, parce que pareil, on montre à la fois la modernité d'une ville, mais les cicatrices liées aux catastrophes naturelles, et ces lieux qu'on peut pas faire disparaître, parce que ça coûte trop d'argent de démonter par exemple un parc d'attractions.
Ça
paraît bête, mais du coup, ça crée des cicatrices visibles pour des gens qui peut-être ont besoin de plus les voir pour guérir.
Mmh, mais ça crée aussi des bêtes de comptes Instagram. Hein.
Ah bah oui.
C'est ça aussi. Je suis en roue libre. Non, mais t'as raison.
J'ai aimé tout le film. J'ai aimé par exemple que il y a une discussion à un moment entre Suzume et sa tante, pardon, où juste un petit peu avant, la tante un peu frustrée, elle se dit des choses vraiment dures. En mode, bah, j'ai dû m'occuper de toi alors que...
C'est là qu'apparaît le deuxième chat.
Exactement. J'ai dû mettre du coup ma vie entre parenthèses à cause de toi. Et ça cristallise la peur qu'avait Suzume par rapport à sa tante. Bah, j'ai été une gêne. Mais en même temps, je ne l'ai pas demandé et tu me l'as imposé alors que moi, j'avais peut-être besoin de...
Il y avait des comptes à régler. Hein. Voilà. Il y avait des portes à refermer.
Et
aussi,
contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est qu'il aurait pu faire une scène un peu plus loin où ça aurait été, bah, en fait, je ne pensais rien de ce que j'ai dit. C'est le chat qui m'a orienté. Et ce n'est pas ça la conversation. C'est, ouais, je t'ai dit ça. Ça existe. Mais en fait, c'est beaucoup plus. Et c'est ce beaucoup plus qui compte. C'est pas cette petite partie de l'inconvénient qui finalement a grignoté tout ce qui concerne notre relation, tu vois. Et c'est exactement ça. C'est le deuil, c'est pas quelque chose de facile, mais ça doit pas empiéter sur ta vie. Et je trouve que le film a finalement parle d'équilibre, ou comment en tout cas rétablir l'équilibre. Et là-dessus, je trouve qu'il fonctionne parfaitement et j'ai adoré.
Rien à dire.
Moi, je vais ajouter un petit truc, c'est que ce que j'ai adoré aussi, c'est la construction de l'histoire d'amour entre Sota et Suzume, et notamment sur la partie où il est là avec elle, mais en chaise. En fait, comme disait Kevin, la chaise est ultra bien incarnée, alors que c'est juste un objet inanimé, mais en fait, c'est trop bien fait. Et je trouve qu'il y a un truc hyper touchant, en fait, parce qu'il est toujours là dans la pièce, il entend ce qui se dit, mais il doit pas forcément parler, parce qu'elle, elle veut cacher que c'est une chaise magique. Et elle sait qu'il est là et qu'il entend. Et il y a tous ces moments, en fait, où il est là, tourné vers un mur ou quoi, et comme si c'était juste une chaise. Mais en fait, du coup, il assiste un peu à qui elle est, quoi. Il y a un truc qui est hyper touchant de lui, observateur, et à l'écoute. Et en même temps, ils ont une espèce d'intimité, de proximité qui se crée petit à petit quand il joue avec les deux petits-enfants, quand elle se permet de monter sur lui pour attraper un truc en hauteur.
S'asseoir sur lui un peu
plus
tard.
Et je trouve que c'est hyper signifiant, en fait. Enfin, c'est qu'une chaise, et elle monte sur cette petite chaise. Mais c'est comme si, voilà, vraiment, en tant que deux personnes, ils devenaient vraiment.
Ouais, alors que lui aussi
et...
a besoin d'elle, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle, on va dire, elle l'ignore, entre guillemets, mais en fait, non, c'est le stratagème pour pas qu'on capte que c'est une chaise qui parle et qui bouge, quoi. Elle tombe dans le néant, quoi. Et en fait, il a besoin de Suzume, ouais. Et autant l'inverse aussi, ça marche. Et puis, il y a aussi pas mal de réutilisation de ce qu'on a pu voir dans les contes de Perrault ou quoi. Ça, on en avait parlé un peu dans la BA, quand la chaussure tombe, ça fait rappel Cendrillon.
Oui, c'est vrai.
Le baiser.
Il y a le baiser de la belle au bois dormant, la belle et la bête, clairement, dans le maléfice, ouais. Chaise et tout, etc. Il a réutilisé un peu des petits codes comme ça.
Sauf que c'est pas signifiant, c'est-à-dire que tu vois le clin d'œil, mais hein. ça ne fait pas avancer l'histoire.
C'est du clin d'œil.
J'ai juste un léger bémol. Bon, c'est pas un bémol, mais j'espère que le prochain film de Makoto Shinkai nous proposera vraiment autre chose. C'est-à-dire que là, c'est le troisième qui nous parle de catastrophes naturelles. Non, mais vraiment, le Your Name, c'était une météorite. Le deuxième, c'était une inondation et un dérèglement climatique. Là, ça nous parle de séisme. Il est très fort là-dedans. Il me touche systématiquement. S'il refait, je vais kiffer. Mais j'aimerais le voir dans un autre registre narratif.
Bah, le prochain, c'est un volcan. Et celui d'après, c'est une tornade.
Non, mais après, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, les persos n'ont pas tout à fait les mêmes problématiques, en revanche, dans chaque film. Et tu vois, autant Your Name, c'était vraiment un garçon de la ville et une fille de la campagne, et le poids des traditions, et plein d'autres sujets qui sont pas dans Suzume.
Mais là, on n'est pas
dans
ça aussi.
Le
hein.
deuil dans Suzume n'a pas été traité comme ça dans
c'est
les
pas
précédents.
Vraiment. Là, c'est juste dans le décor.
C'est quand même une jeune lycéenne dans une petite ville côtière de l'île de Kyushu.
Oui, mais c'est pas le sujet.
Oui, on est d'accord. Pas du saké, quoi.
Mais en tout cas, on commence vraiment à cerner des gimmicks narratifs de personnages et de thématiques que j'aime, mais j'aimerais qu'ils me surprennent pour la prochaine fois. Et encore plus, je veux dire.
Un amour de la pluie aussi. Il y a toujours de la pluie dans ces films.
Ouais. Le prochain, ça se trouve, c'est un gros shonen de porc, là. Ça va partir dans l'espace, ça va se foutre des mandales.
Non, mais ouais, pourquoi pas, tu vois, c'est ce qu'il avait fait au Soda avec. Bah, lui, il est surprenant, en fait, même dans sa
le filmographie. Le garçon et la bête.
Le garçon et la bête, après, derrière, t'as Mirai, tu fais waouh, elle est vraiment. Ouais.
Et juste après, et pourtant, t'as Belle dans un univers
dans leur,
numérique.
Dans leur genre, ils sont ultra touchants, tu vois. Puis après, t'as Belle. Et lui, il est peut-être plus attaché au numérique à fond, quoi.
Le garçon et la bête, il est vachement touchant aussi.
Mais c'est vrai que Suzume fait un peu penser au garçon et la bête.
Ouais, il y a un peu
de par certains aspects, dans ce mélange de fantastique, merveilleux et
évidemment,
de.
Évidemment, l'aura de Miyazaki qui.
De toute façon, il avait commencé comme ça, au Soda avec Digimon, avec Summer Wars.
Dans le digital, ouais, dans le virtuel, quoi, déjà.
Et même dans l'action.
Et dans l'action.
Enfin, si vous connaissez pas Mamoru Soda, commencez par les enfants loups à Ameyuki.
Tu vois, moi, je crois que c'est Mirai, mon préféré, c'est fou. Hein.
Ah, moi, c'est vraiment les enfants loups.
Ah, moi, c'est les enfants loups, j'ai tellement pleuré devant Sim que.
Mais les enfants loups aussi, ouais.
Mirai est incroyable aussi.
Mirai, ouais. Bon, bah voilà, en tout cas, Makoto Shinkai, encore une fois, qui.
Pour
qui
moi, c'est mon top 1 de l'année pour l'instant, je
top 1,
hein,
carrément. Ah, ouais, ouais, ouais.
Toujours les bonnes chimes.
Ouais, ouais. Moi, il y a juste un petit truc, pareil, pinaillage. Ah. Mais j'aurais aimé que le film s'arrête 2 frames avant que.
J'allais dire la même chose que toi.
Qu'on ne voit pas, pourquoi en fait. Faut pas qu'on voit Sota. Faut que le film s'arrête sur les alors yeux de Suzume en train de. Et son
d'accord
visage qui s'illumine. On pas besoin de voir Sota en
contre-champ. Je suis d'accord. Je me suis fait la même réflexion.
Parce qu'on m'a deviné, en fait. On n'est pas con, quoi. On n'a pas dit putain, elle a dû voir quoi.
Ok,
un serrurier. Un témoin de Jéhovah.
Non, mais ce que j'ai trouvé intéressant dans l'image où on la voit face à lui, donc la frame en trop pour toi, c'est qu'on voit qu'elle n'est pas habillée comme avant et je trouve qu'elle a presque.
Ça,
l'air plus âgée. Enfin, c'est des années après, en fait. On
surtout qu'on voit que lui, il a une écharpe. Et là,
mais on voit
tout
qu'ils sont non, adultes, mais ils sont accomplis,
en fait, ça,
ils sont prêts
froid
à faire des enfants.
Ça rentre dans la thématique.
Elle est dans son délire.
Ça rentre dans la thématique de la boucle. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent au même endroit que quand ils se sont rencontrés. Comme on
ouais,
parle
mais de, tu vois, tout ça, on capte tout ça, il n'y a pas besoin de.
C'est vrai que ça aurait été plus joli si elle avait juste le regard, le sourire.
Oui,
et
ouais.
Par contre, heureusement qu'ils se retrouvent parce que moi, au moment où il prend le train et il dit non, mais en fait, j'ai des choses à faire, ciao, je me suis dit, c'est un peu un connard en fait. Elle a traversé le pays
mais
pour le retrouver.
Les portes qu'il faut fermer. Enfin.
Tu chasses les fantômes et en plus tu me ghostes, ouais. C'est mort.
Enfin voilà, en tout cas ça nous a beaucoup touché. Peut-être que la phrase qu'on avait entendue dans la BA et qu'on entend dans le film aussi, mais sur laquelle on s'était attardé, là où les émotions ont disparu, des portes s'ouvrent et par les portes arrivent les catastrophes, prend beaucoup plus de sens hein, aujourd'hui, maintenant qu'on a vu le film. Bref, un film qu'on recommande bah, à toutes et toutes. Hein. De toute façon, si vous êtes là, vous avez entendu qu'on est un spoiler 100%, donc bon, soit vous avez pris le risque de tout découvrir avant d'aller voir le film, mais bon, si vous êtes quand même là,
vous pouvez
allez-y. Notre avis reste un avis, mais vous verrez la magie du film à travers vous, votre avis à vous. On va passer à la suite. 4 avis positifs sur 4 là autour des micros. Qu'en est-il de la presse? Parce que nous ne sommes que des gens qui donnons nos avis. Nous, on veut des critiques, on veut des journalistes. Là,
nous sommes la plèbe.
Qu'en a-t-il pensé?
Allez, c'est parti.
Revue de
presse.
La revue de presse.
La revue de presse.
La revue de presse.
La revue de presse.
La revue de presse.
La revue de presse.
La revue de presse.
La revue de presse.
Moi, en tout cas, j'ai pas beaucoup lu dessus, mais de ce que j'ai pu voir passer sur les réseaux, c'est que du positif.
Oui, bah la presse a plutôt bien aimé, à part quelques petits récalcitrants que je vous ai gardés à la fin comme d'habitude, mais en grande majorité, ça a été beaucoup apprécié. On va commencer par les notes de la presse internationale avec Rotten Tomatoes, n'est-ce pas ? 96%, donc énorme score. Hein,
un très très bon fruit,
ouais,
bien
Metacritic, 76, moins fort, mais c'est toujours un peu moins fort sur Metacritic, mais c'est quand même pas mal.
C'est un gros score pour Metacritic.
Et Allociné, 3,9.
Oh, c'est plus.
C'est plus que le meilleur film
Spider-Man.
De 2021, Spider-Man, le retour des trois pélos. Je sais plus comment il s'appelle.
Spider-Merde.
Spider-Merde. Bon, on va commencer du coup avec première nous dit Suzume est avant toute chose un fabuleux road trip adolescent rythmé par les alertes séismes apparaissant sur les smartphones où l'héroïne traverse le pays d'ouest en est, de porte en porte, aidée par une série de rencontres fortuites, une leçon de narration autant qu'une leçon de technique visuelle, bref, une vraie leçon de cinéma.
On est d'accord.
Amen.
On enchaîne avec Libération. Libération qui se sont sentis d'humeur un petit peu exégète.
Contrib,
je vous lis ça. Le cinéma d'animation appelle, encourage même, le geste démiurgique. Par sa nature d'espace vierge où toute image est à créer ex nihilo, où le moindre mouvement de caméra virtuelle comme le plus infime détail fiché dans le décor est malléable à l'envi, l'animation encourage le cinéaste, pour peu qu'il dispose des moyens financiers suffisants, ça c'est important quand même, à se faire omnipotent, à façonner le monde à sa guise. En bref, à se croire tout permis.
Quand est-ce qu'il parle du film déjà ?
Une tentation qui peut virer à l'ivresse lorsque ce cinéma croise un projet esthétique tel que celui de Makoto Shinkai. Le film arrive.
Ah voilà. Pour l'instant, ils ont juste parlé du principe.
Voici ma critique. Le mec qui fait une bonne annonce, quoi.
Apparition de titre.
Le mec
critique.
Qui t'a fait une introduction sur la fabrication d'un film d'animation.
Avec que des mots contre triple, on dirait des défis lancés par ses potes.
Ouais. Makoto Shinkai, artisan du sublime, du réenchantement des forces de la nature, où le panorama se fait le canevas d'émotions extrêmes entre l'extase béate et l'effondrement lacrymal. Le plus beau film.
Comment je peux dire qu'elle pleure sans dire qu'elle pleure ? Effondrement lacrymal.
Non mais c'est très voilà, c'est grand poulet. Le plus beau film du japonais de loin est un beau film tout court, porté par une recherche de sens là où il n'y a rien d'autre à trouver que l'arbitraire et l'accidentel.
Ouh, et bah, bah, voilà, ouais. Et bah... le mec peut signer mot passant, Émile Zola. Hein.
C'était qui ça ?
Incroyable, quoi.
C'était Libé.
Non mais okay. Libé, c'est des fous quoi. Je voilà. me suis effondré la.
On se
la,
rappellera
la...
du geste démiurgique.
L'effondrement lacrymal quoi, moi j'adore. Ouais, je me suis effondré lacrymal bon parlant.
Bon, on se moque, mais c'est assez vrai ce qu'il dit juste. Que
non
c'est
mais
dit,
oui, mais c'est juste qu'il a.
C'est dit de manière très.
C'était une longue intro pour une analyse de film très courte.
Résumé, c'est
après,
beau, c'est
l'analyse
bien, ça
de film
chialer.
Est plus longue, je mets pas tout.
Hein, ah oui, d'accord.
Tu sais, je mets pas toutes les critiques en entier, sinon on n'est pas sorti.
Okay. Et ça me fait penser à un truc qu'on n'a pas dit, mais l'apparition de titre du film est incroyable.
Ah, ouais.
Ça m'a foutu un coup au cœur. Genre,
t'as eu peur, jumpscare.
Non, vraiment, j'étais en mode wow, ouais. Et j'ai mis du temps à redescendre.
Mais moi, par contre, j'étais déçu parce que je croyais que ça allait partir en opening. Il n'y a pas eu. Après,
t'as
ça partait dans le film,
pop.
Je fais ah non, moi je voulais du Canta. Avec le.
C'est
le
ça, c'est dans Your Name.
Dans la série.
Ça, c'est dans Your Name.
Ouais.
Dans Dommage. La série Suzume, peut-être. Écran large. Nous dit, si Makoto Shinkai a l'habitude d'écrire des histoires d'amour, Suzume s'écarte assez rapidement de cette dynamique en laissant la romance en arrière-plan. Mmh. Ce qui s'apparente au traditionnel prince charmant, caractérisé en premier lieu comme le beau gosse mystérieux qui vient à la rescousse de Suzume, se retrouve vite dépourvu de tout charme physique. Et oui, c'est devient une chaise. Celle qui a tout de l'énième demoiselle en détresse récupère de fait le rôle de protectrice et de sauveuse, tandis que la mignonne petite créature se révèle beaucoup moins adorable et petite que prévu. Cette malice dans l'écriture des personnages est couplée à une histoire d'aventure plus simple dans la narration et la structure, mais toujours aussi entraînante jusqu'au feu d'artifice du dernier acte. S'il est difficile d'affirmer que le film de Makoto Shinkai est le plus beau ou le plus galvanisant, Suzume peut largement prétendre au titre.
Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant le fait que l'héroïne devient, enfin, la princesse à sauver devienne l'héroïne et vice-versa, tu vois. Ça marque du coup les deux gros actes du film. Quoi. C'est...
Là où je suis assez d'accord aussi, c'est que c'est vrai que la linéarité de la narration est plus abordable que par exemple un Your Name qui se passe sur plusieurs strates, sur plusieurs timelines temporelles. Et c'est vrai que du coup, il est peut-être plus efficace à ce niveau-là. Tu vois.
Mais c'est moins surprenant. Là où tu as un twist, un véritable twist dans Your Name, où tu dis putain, le film il est ouf et tout. Alors que t'es encore en plein milieu du film, là tu l'as à la fin en fait. Ça.
C'est pour ça que Your Name, il y a plein de gens qui ça reste leur préféré parce que c'était un choc et une surprise. C'était souvent le premier que les gens ont vu de Makoto Shinkai parce que c'est avec ça qu'il a explosé. Mais moi j'avoue que je préfère le côté linéaire, là j'ai trouvé ça hyper rafraîchissant pour le coup.
Ouais.
Oui, le journal du geek. Sans être un chef-d'œuvre inégalé, Suzume est une belle surprise qu'il serait dommage de rater. Makoto Shinkai est un expert de la corde sensible et propose un voyage onirique doublé d'un beau récit de passage à l'âge adulte qui nous touche en plein cœur.
C'est très bateau comme critique.
Oui. Puis y a pas de... Pour moi, c'est pas un passage à l'âge adulte pour le coup.
Ouais, c'est pas poulet là la critique. Là, je sais pas, là c'est les stagiaires qui vont marquer des wimps.
En off, on va te parler du poulet parce qu'on l'a discuté avec un jeune. Je suis allé en immersion.
Sur le
terrain. Tout de suite, en immersion, Kevin.
En immersion avec les jeunes.
J'ai appris que les jeunes, pour dire c'est bien, maintenant ils disent c'est poulet.
Non, c'est du poulet.
Ah, frère, t'étais avec nous la dernière fois qu'on en a parlé.
Ah, c'est avec vous que j'en ai parlé.
Bah oui.
Bah oui, mais j'ai demandé.
C'était la semaine dernière.
Je vous raconterai dans un podcast à part. Enquête auprès de la jeunesse, je connais l'origine. Alors.
Mais non, mais dis maintenant, dis,
poulet, c'est
parenthèse.
Bon. C'est pas ça.
Non, c'est parce que ça vient apparemment d'une chanson de Caris.
Ok, oui, bon, après, les origines story, voilà, il y a débat, quoi.
C'est
voilà.
Et apparemment, on dit pas c'est poulet, on dit c'est du poulet. Voilà.
Oui, bon, ouais. On nous emmerde les jeunes.
J'embrasse le jeune. J'embrasse le jeune qui m'a donné cette.
T'es en train de devenir un vieux bâtard.
On est tous des vieux bâtards, regarde ce que j'ai dit sur Mario. On passe aux gens qui n'aiment pas trop le film. J'en ai pris que deux.
Impossible,
parce que...
je pense.
J'en ai pris que deux parce que ça sert à rien de d'en parler trop, qu'on n'est pas d'accord, on sent sur les gens dans ce pays.
Alors, est-ce qu'il y a le Figaro ?
Le Monde. En dépit de quelques trouvailles, telle une chaise magique qui se déplace toute seule, le spectacle est chargé de bons sentiments et ressemble à un manège interminable, d'où s'échappent trop de cris et de tours répétitifs.
Oh. Ouais,
Véronique,
okay.
64 ans, a vu ce film, ouais. Après s'être fait larguer par Jean-Louis.
Ça crie beaucoup trop. Je n'aime pas les cris.
C'est fou parce que moi, j'ai eu l'impression, au contraire, que le film, il était...
silencieux.
Très calme, très souvent, et que c'était agréable, justement. Tu vois. Qu'il arrivait à alterner ces séquences de...
Bah, entre chaque porte, hein, parce que quand il y a la porte...
Oui, non, mais d'accord, mais ça, c'est normal. C'est dans tous les films, il faut que tu aies des moments d'excitation sonore et visuelle. Mais j'ai trouvé qu'en dehors des portes, le film, il prend le temps de se poser, de faire des beaux plans longs, avec du silence. Il y a même plusieurs jeux de vent. Moi, ça me plaît parce qu'au niveau du son, ça fonctionne bien. J'ai du mal à être d'accord avec eux, tu vois, d'un point de vue sonore, en tout cas.
Mais la vie qu'on attendait tous.
Journal des chats.
Bien sûr.
Criticat. Ah
oui, le Journal des chats. Enfin, c'est quand même... Il y a quand même deux chats qui jouent dans ce film, dont un qui a un rôle principal, quoi. Donc,
pas miaou, pas miaou.
Que pense Criticat ? Voilà ce que pense...
Les chats valent mieux que ça.
Voilà ce que pense Criticat. Lorsqu'elle découvre pour la première fois le portail carolien de Lewis Carroll, bien sûr, permettant au verre d'envahir le Japon, Suzume ne parvient pas à passer de l'autre côté du miroir. La jeune fille court seulement au travers d'un écran projetant à la manière d'un hologramme un monde à la fois mystérieux et attirant. Emblématique de ce que l'univers de Shinkai peut avoir de superficiel, la mise en scène s'efface souvent chez lui derrière la joliesse. La séquence met aussi au jour son obsession pour l'imaginaire de la dévastation qui sert de métaphore au bouleversement intime de ses héros. Le problème du film tient à ce qu'il ne choisit jamais entre l'apocalypse et les images d'Épinal. Le sentimentalisme outré des scènes lacrymales qui suivent la disparition de Sota alterne avec une gentillesse qui tombe parfois dans la niaiserie.
C'est faux.
Tellement pas d'accord. Je trouve
Ça va les chats. Hein.
Puis je trouve pas que le film soit tire l'arme.
Non.
Vraiment pas, pour le coup.
Non, puis c'est pas le tombeau des lucioles, quoi.
Ce qui est terrible, c'est qu'il reproche au film son nom jusqu'au boutisme, alors que moi, pour le coup, je trouve que c'est sa vraie force. De pas justement de dire c'est soit extrêmement dur, soit extrêmement gentil, soit extrêmement simple à résoudre, soit extrêmement compliqué. Bah non, justement, c'est un équilibre entre les deux.
Et puis j'ai l'impression qu'on est face à une critique d'un mec qui est premier degré fantastique, quoi.
Un chat.
Qui a pas, du coup, qui a peut-être pas perçu le message, et ça peut arriver, on les blâme pas, mais qui a pas perçu le message caché à travers toutes ces situations.
Qui a pas été touché. Des fois, on est touché. Des fois,
puis
pas
moi,
touché,
je vois pas où est la niaiserie. Hein.
Non, c'est loin d'être nié, vraiment. Là,
c'est pas nié, non.
Ouais. Ok, merci pour ces critiques de la presse, Kevin.
Mais de rien.
Après, j'ai envie de terminer tout ce match retour avec une question, la vraie question. Est-ce qu'à la fin, la tante, elle se le lève ou pas, le petit jeune?
Mais non, elle se met avec le mec du port.
Moi, je pense
ouais, ouais.
Tu non, crois moi, je pense la tante, alors on a rien à foutre du mec du port, elle est avec Serizawa 4000.
Ouais, ouais, moi,
aïe,
je pense
aïe,
tomber,
aïe.
Je
en même temps, c'est un beau couple.
Il
hein.
va y avoir des allers-retours en ferry,
voilà,
moi, je te dis.
Voilà. Moi, je pense qu'en effet, elle va trouver quelques petites raisons de retourner à Tokyo, quoi.
Ouais.
Je pense que...
Et si on allait voir le musée d'art moderne? Ouais, vas-y, va voir le musée d'art
moderne.
Il est
à Tokyo, malheureusement. Pas le choix.
Ah, tu sais, il est devenu prof. Tu vas aller dans son école et devenir son élève.
D'accord.
Oh oui, apprends-moi tout ce que tu sais, Serizawa.
Non, c'est elle serait du coup le parent, puisqu'elle enverrait Suzume chez lui.
J'avais pensé à un titre après coup. C'était Une chaise à soie.
On va se dire au revoir.
Bref, à Virginia Woolf.
Une
chambre à soi.
Je croyais que tu faisais un jeu de mots sur à soi, à s'asseoir.
Laissez tomber, vous n'êtes pas dans le monde.
En tout cas, s'ils avaient un groupe de rock, Serizawa et Sota, ça pourrait s'appeler Chesterfield.
Allez. Ça, c'était la semaine dernière. Là, vous faites quoi? T'en as un, William, hein? Tu veux équilibrer, peut-être?
Non. Tout va bien. Je les trouve beaucoup trop forts pour moi.
Allez.
On arrête ici.
Disons-nous sayonara. Voilà, c'était le match retour de Suzume de Makoto Shinkai. Allez voir cette petite pépite d'animation japonaise. Il confirme que la relève de Miyazaki, elle est là, elle est bien ancrée. On a hâte de voir la suite en fait pour lui. Écoutez, on l'attendra au tournant, le Makoto Shinkai. En attendant, nous, ce qu'on va se match retourner la semaine prochaine, autre ambiance, autre performance, mais bon. On passe, retourne dans le live, on va aux States, on va chez Joaquin Phoenix, on va chez Harry Astor, on va dans le cauchemar. Hein, Boys Afraid pour le match retour prochain. Sinon, tous les épisodes BA sont sur nos plateformes d'écoute. Hein. Enfin, les nôtres, c'est pas les nôtres, on les possède pas, mais bon, on y est. Hein, Spotify, Deezer et compagnie, et des Apple et des trucs et des machins. Sinon, c'est sur les réseaux sociaux. Twitter, Facebook, Instagram. On est également présent sur YouTube parce qu'on est à la pointe de la technologie. Voilà. On vous dit à tous sayonara et à très vite.
Salut.
Ciao.
Bye.
Arrivederci. 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 Arrivederci.